BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
C'est l'émission qui donne une chance à votre argent, à vos placements. Bienvenue à tous. C'est chaque après-midi jusqu'à 18h. Il est là, en fil rouge, Antoine Larigauderie. Rebonjour Antoine.
Rebonjour Guillaume.
Votre mot du jour.
Eh bien, l'Europe, pour une fois, star de la cote, plus 0,82% pour un CAC 40 qui est à 8 452 points. À noter qu'on est au plus haut depuis le mois de mars dernier, où on avait signé notre dernier record historique. Donc on est peut-être sur la ronde de lancement cette saison. Moins 0,7% en revanche pour la tech européenne, l'Euronext Tech Leaders. Ça avance de 0,56% du côté de l'Eurostox 50. Le DAX à Francfort, plus 0,26% et plus 0,38% pour l'IBEX à Madrid. À noter que sectoriellement, c'est quand même le secteur du luxe qui signe une très bonne performance. Alors, elle n'est pas éclatante comme celle de Schneider qui gagne 3,3%. Mais enfin, LVMH, plus 2. Plus 2 pour Hermès aussi. Kering bien orienté, un plus 1,5%. Mais toujours en embuscade, le secteur du luxe là en ce moment.
Oui, on va en parler bien sûr en détail. Le baril de pétrole aussi qui repasse le Brent sous les 80 dollars, avec en vue donc cet accord qu'on attend vendredi en Suisse, signature de cet accord entre Américains et Iraniens. Mais alors SpaceX, il n'y a pas une minute où SpaceX ne gagne pas face à un de ses grands rivaux, là en matière de capitalisation. Allez, on va y aller droit au but. SpaceX vient de passer devant Microsoft à l'instant. SpaceX à l'ouverture est passé devant Amazon. À l'instant, SpaceX passe devant Microsoft. Oui, oui. Et donc SpaceX d'un coup devient la quatrième plus grosse capi mondiale. Le titre SpaceX gagne en ce moment 15% hein, tranquillement. Oui, oui. Tous les jours 19%. Depuis plus tous les jours, le titre a gagné 19% depuis l'introduction. Puis là, on est sur le même rythme, plus 15. À ce rythme, dans une semaine, SpaceX sera la plus grosse capi mondiale devant Nvidia. Imaginez si ça continue à ce rythme une semaine, on sera devant Nvidia avec SpaceX. C'est déjà fait, Microsoft est avalé, Amazon aussi. On va en parler bien sûr. Et puis on viendra sur quand même la déception du jour, c'est la Chine. Des chiffres de consommation en baisse en fait, les ventes au détail en Chine pour la première fois depuis 2022. Et quel signal cela envoie? On en parlera dans l'écho du monde. BFM Bourse sur toutes ces batailles de marché. Et BFM Business au cœur de toutes les actualités. D'abord le G7 et les dirigeants réunis à Evian qui font monter la pression contre Moscou pour arrêter la guerre en Ukraine. Donald Trump promet lui-même de faire tout son possible pour y parvenir. Selon lui, les États-Unis étaient focalisés sur l'Iran, mais ceci va être derrière nous, et de préciser que Washington pourrait bientôt rétablir les sanctions sur le pétrole russe. En matière d'intelligence artificielle, la France tourne donc le dos au géant américain Palantir. Les services de renseignement vont désormais passer par une solution française proposée par ChatVision. Annonce de Sébastien Lecornu à la veille de l'ouverture de Vivatech. Sébastien Lecornu ajoute que le programme France 2030 va consacrer 655 millions d'euros supplémentaires au développement de l'IA. Et puis ces deux annonces importantes dans le secteur du retail au sens large. D'abord, Frédéric Merlin se sépare du BHV Marais. Il cède le grand magasin à son management, lequel entend revenir aux fondamentaux des lieux. Le contrat avec Chine, par exemple, ne sera pas renouvelé. Et puis aux États-Unis, c'est Pizza Hut qui est vendu pour 2,7 milliards de dollars par Yum Brands, un fonds d'investissement notamment. La chaîne de fast-food en perte de vitesse depuis plusieurs années a été dépassée par son concurrent Domino's Pizza. Plus de détails dans le 18-19 et Vive Chevrillon. D'ici là, c'est BFM Bourse, on est à vos côtés. On joue dans votre camp. Bienvenue à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et SpaceX, ça va plus vite que la musique. Hein. On le disait, donc c'est l'info de cet après-midi. SpaceX passe devant Microsoft et Amazon en capitalisation. Déjà à l'ouverture, SpaceX était passé devant Amazon. Et bien à l'instant, SpaceX est devant Microsoft, également quatrième plus grosse capi mondiale. Désormais SpaceX, Antoine.
C'est étonnant. C'est étonnant parce qu'on aurait pu croire à des séances continuelles de plus 30, moins 70, etc. Non, ça se passe graduellement par vague et pour l'instant, ça ne s'arrête pas. Donc, on peut parler d'une tendance plutôt saine à ce niveau-là de buzz, d'agitation, etc. Il n'y a pas trop d'ajustements. Donc voilà, ces trois premiers jours de cotation se passent quand même relativement bien pour SpaceX et beaucoup d'opérateurs étaient anxieux en attendant de voir si c'était de nature quand même à déstabiliser un peu le marché. Pour l'instant, ça se passe bien. Et Wall Street qui avait ouvert sur une note un petit peu mitigée avec une reprise de souffle logique du Nasdaq hein, qui avait gagné plus de 3% hier. Ben là, on repart à la hausse, hein, plus 0,22% pour le Nasdaq, plus 0,64% pour le Dow Jones.
Et c'est Boulet Bertrez qui nous suit, qu'on suit aussi sur les réseaux, qui nous dit à ce rythme d'ici une semaine, SpaceX deviendra la première capi mondiale devant Nvidia. À ce rythme.
Si on reste sur cette dynamique, oui, il y a des chances qu'il rattrape. Il reste quoi? Il reste Google et Nvidia. Hein.
Il faut avaler encore Apple, Google et Nvidia.
Google
et Nvidia.
Bon, on va voir ça. Plus 0,87 en attendant pour le CAC 40, qui se retrouve donc au plus haut depuis mars, depuis le mois où il avait battu son dernier record historique. Donc 8 456 points, on est 200 points hein, de ce record absolu. Alors les stars du jour, On l'a dit, le secteur du luxe, hein, plus 2 pour LVMH, 523,25 €. Hermès, plus 2, 1747 €. Nos spécialistes de l'intelligence électrique aussi. Schneider Electric, plus 3,42, 279,40 €. Et Legrand, plus 1,8% à 138 €. À la baisse, le secteur auto, alors ça c'est notable, hein, Renault, moins 3,4% à 27,81 €. Stellantis, moins 58 à 6 €. Et puis, l'Euronext Tech Leaders est en baisse. Moins 0,69%, on a la tech européenne qui sous-performe un petit peu le marché. Et ST Micro perd 1,69%, 67,29.
Adrien Henry nous rejoint. Adrien Henry pour Kepler Chevreux. Bonjour.
Bonjour.
Adrien, on est ravis de vous retrouver. On va parler tech ensemble parce que Palantir à Wall Street perd 2,5%. Il y a peut-être une raison, un déclencheur, la goutte de trop qui fait déborder le vase. C'est peut-être nous les Français. Il se trouve que les renseignements intérieurs, la DGSI a choisi de rompre son contrat avec Palantir. Pas parce que Palantir fait du mauvais boulot, non, mais parce que Palantir est américain et que le but de la France et des Européens, c'est de réduire leur dépendance aux États-Unis. On voit par exemple que les États-Unis n'hésitent pas à limiter l'accès de certaines de leurs technologies à d'autres pays. Eh bien, il ne faudrait pas, en matière de sécurité, dépendre trop d'un seul acteur américain. Donc la DGSI rompt son contrat avec Palantir, moins 2,5 Palantir à Wall Street. Est-ce que vous voyez des acteurs ici en Europe ou sur le marché français susceptibles de aller continuer de bénéficier? Des acteurs pour lesquels ce ne soit pas complètement dans le pricing de marché, de ce regain de souveraineté ici, cette prise de conscience européenne qu'on a besoin de moins dépendre des Américains. Quelles valeurs pourraient en profiter en Europe ?
Sur un segment de marché qui est assez similaire à celui que faisait Palantir et qui a été repris par la société française, on a aussi Thales qui travaille là-dessus. Il y a une solution qui s'appelle Arcadia, notamment, dans les systèmes un peu complexes de défense et d'ingénierie. Donc ça c'est pour si on regarde quelque chose d'activité assez similaire à ce que fait Palantir. Après surtout dans d'autres domaines d'activité, on peut penser effectivement à tout ce qui est lié au data center, notamment avec un gros acteur qui est français lui aussi, OVH. Alors après le run du titre, enfin le titre a pas mal progressé sur les dernières séances, donc effectivement ça remet en question un petit peu le cas aujourd'hui, en se disant que une partie de cet aspect souveraineté a été anticipée, surtout que aujourd'hui le groupe est pas similaire en termes d'hyperscaler, en termes de forte technologie dans les data centers, donc il y a encore du chemin à parcourir, mais effectivement il y a certains acteurs effectivement qui sortent comme ça du reste du marché, et OVH peut en faire partie. Ouais.
OVH qui progresse d'ailleurs encore aujourd'hui d'1,8%. Dans les annonces du jour, il y a Lighton qui nous dit que les signatures, les contrats avec l'État pleuvent, se multiplient, une quinzaine de contrats d'ores et déjà signés pour Lighton. C'est l'IA sécurisée avec des établissements publics. Le titre Lighton, c'est très très spéculatif, gagne 38%. Et puis alors, il y a une valeur qui progresse aussi aujourd'hui, toujours sur ces enjeux de souveraineté, c'est Coeris. C'est un tout petit groupe. Attention, on est vraiment dans le méga spéculatif, plus 15% aujourd'hui, parce que la DGSI se sépare d'Anthropic et favorise à la place un acteur français, vous l'avez cité, ChapVision, et ChapVision détient 70% de ce groupe Coeris qui est coté en bourse, lui. Donc Coeris en profite et gagne 15%. Bon, ces enjeux de souveraineté technologique, on en reparlera bien sûr aussi dans la suite de BFM Bourse, et sur la défense aussi, parce que on est au cœur de grands enjeux de défense. Il y a le G7 qui a lieu en ce moment à Évian. On est sur des déceptions quand on est investisseur en bourse. La défense depuis les début d'année, c'est pas terrible en Europe. Est-ce que vous voyez un rebond se profiler ou des acteurs avoir reconstitué un potentiel pour la suite, Adrien?
L'événement Eurosatory qui se tient en ce moment à Paris et le reflet de ça, il y a une influence qui est assez historique. On est présent à cet événement pour voir les sociétés cotées. Il y en a beaucoup, comme Thales, Rheinmetall, Leonardo, Exosens ou encore Airbus. Donc il y a une influence historique qui n'est pas forcément complètement décorrélée de ce qui se passe aujourd'hui en termes de menaces géopolitiques. On a d'autres groupes aussi comme Soprasteria notamment qui sont présents, parce que Sopra développe des logiciels pour gérer notamment la mobilité ou la logistique sur le front. Donc c'est des thématiques comme on a pu voir avec la guerre en Ukraine qui sont assez importantes. Globalement, si on a un message global à donner sur la défense, c'est de se dire que dans l'environnement actuel, même si finalement les tensions diminuent au Moyen-Orient, la défense n'est pas un secteur qu'il faut oublier. C'est présent dans la souveraineté également. Beaucoup de valeurs européennes qui sont assez puissantes là-dessus, sur ce secteur-là. Et puis, vu que ce sont des contrats à long terme et qu'il y a des budgets de la défense qui ne seront certainement pas renégociés à la baisse sur les années qui viennent, au vu justement de cette tension géopolitique, eh bien effectivement on pense que c'est pas du tout un secteur à oublier en bourse, et on privilégierait même des acteurs comme Thales pour s'exposer à ce secteur. Ouais.
Voilà, des idées. Et pour le deuxième semestre qui va bientôt démarrer sur les marchés, là, est-ce que vous avez des pépites avec vos équipes que vous arrivez à trouver sur le marché en Europe ou en France, pourquoi pas, pour apporter les idées à ceux qui nous suivent aujourd'hui?
Des pépites, ça risque de vous faire sourire, mais bon, on aime bien Capgemini, nous, pour le deuxième semestre. Il vient de la fin du conflit au Moyen-Orient, enfin là, on tend vers une fin de conflit au Moyen-Orient, ça retire en fait l'un des principaux risques sur le CAC, qui était un risque de récession si on rentrait dans un fort conflit au Moyen-Orient, ralentissement économique, augmentation de l'inflation, etc. Donc le risque de récession pèse pour un groupe comme Capgemini. Ce risque, il a l'air de sortir progressivement du cadre, et donc on va se reconcentrer un petit peu sur les fondamentaux du groupe. Et aujourd'hui, la valorisation actuelle, elle reflète pas du tout ces fondamentaux. Les fondamentaux, c'est une croissance qui est soutenue, une croissance organique autour de 4-6%, des BPA en hausse de près de 10% et un retour aux actionnaires autour de 5%. Enfin, on pense que voilà, les niveaux de valorisation actuels ne sont pas reflétés sur Cap. Et effectivement, on voit une sorte de rotation déjà dans les portefeuilles sur des valeurs qui ont beaucoup perdu par rapport à l'intelligence artificielle. Les médias, par exemple, dernièrement, ont bien remonté en bourse, mais on pense qu'effectivement, les services informatiques pourraient être un secteur et Capgemini pourrait bénéficier éventuellement de cette rotation sectorielle à un moment sur ces valeurs-là.
Merci Adrien, on vous retrouvera à la clôture des marchés Kepler Chevreux à nos côtés. Le CAC gagne 0,8%. Et Raphaël Lucet tient nous rejoint pour une idée en plus. C'est valeurs ajoutées, Moneta Asset Management. Bonjour Raphaël.
Bonjour à tous.
Alors Raphaël, vous n'avez que 2 minutes 30. Est-ce que vous acceptez malgré tout de relever le pari?
On va essayer.
Alors on y va. 2 minutes 30 pour nous parler d'une valeur à laquelle vous croyez. Votre condition du jour, c'est De Richbourg. Vous l'intégrez De Richbourg aux acteurs de la souveraineté industrielle européenne?
Oui, parce que donc en tant que leader français du recyclage des métaux, donc le groupe transforme nos déchets en matières premières pour nos aciéristes et réduit ainsi notre dépendance aux importations. Donc c'est un modèle vertueux parce que utiliser de l'acier recyclé réduit les émissions de CO2 de 58% et l'énergie consommée de 74% par rapport à l'extraction minière. Donc aujourd'hui, le vent tourne en faveur du groupe grâce à un bouclier réglementaire massif. Donc on a depuis janvier 2026, il y a le mécanisme CBAM, qui est la taxe carbone aux frontières, qui renchérit les importations d'acier polluant, poussant les clients donc européens vers l'acier européen. Et c'est pas fini, puisqu'à partir du 1er juillet, il y aura de nouveaux quotas d'importation qui vont diviser par deux les importations d'acier hors Union européenne. Et donc ça va créer un appel d'air pour les volumes d'acier européen et donc pour les ferrailles de Richbourg.
Quels sont les moteurs pour l'activité cette année et au-delà de cette année?
Alors donc sur le court terme, le groupe bénéficie d'un alignement de planètes. Donc d'abord, il y a l'explosion de la demande pour les métaux non ferreux comme le cuivre et l'aluminium. C'est une demande qui est portée par l'électrification et donc il y a une hausse des cours de ces métaux non ferreux qui aide à augmenter les volumes et la marge brute. On a également des volumes de ferraille qui sont mieux orientés. Donc la direction, elle vient d'ailleurs de relever sa guidance d'EBITDA annuelle, qui était entre 320 et 350 millions, et elle passe maintenant à entre 350 et 370 millions d'euros. Ensuite, à plus long terme, il y a la transition des aciéristes vers les fours à arc électrique, qui sont moins polluants et qui utilisent de la ferraille, donc il y aura plus de débouchés pour De Richbourg. En parallèle, le groupe prépare son futur avec des options de croissance à forte valeur ajoutée comme le recyclage des batteries de véhicules électriques et de nouvelles lignes pour le recyclage des ballons d'eau chaude. Et puis enfin, le groupe est actif en croissance externe avec le probable rachat stratégique du groupe Stolz en Allemagne qui est prévu pour la fin de l'année et qui augmenterait le chiffre d'affaires de près de 50% avec une bonne complémentarité géographique.
De Richbourg, sauf que sur un an, le titre gagne déjà 81%. Est-ce que tous ces points forts ne sont pas déjà dans les cours?
Alors non, on ne pense pas. On pense que le marché ne valorise pas encore pleinement ce changement de dimension. Donc le titre, il se paye actuellement seulement 11 fois les bénéfices estimés pour 2026. Ce qui est très raisonnable pour un leader en pleine accélération. Et la structure financière est solide et elle va permettre de financer l'acquisition de Scholz sans augmentation de capital.
Merci beaucoup, Raphaël Lucet, Moneta Asset Management, sur cette valeur de Richbourg dans laquelle vous croyez. Bon après-midi, Raphaël. Wall Street est en hausse. On vous rappelle que General Motors est en train de discuter avec Lockheed Martin, d'après le Wall Street Journal, de discuter, pourquoi pas, pour investir dans l'armement à son tour. General Motors gagne 1% en ce moment sur le marché américain. Mais oui, ça fait partie de tous ces constructeurs qui, de plus en plus, souhaitent s'engager ou doivent s'engager dans les enjeux de défense et d'armement. L'analyse de John Plassard a retrouvé, c'était dans USA Today tout à l'heure. C'est d'ailleurs en ligne sur nos replays, nos podcasts, sur l'application BFM Business USA Today, si vous souhaitez réécouter l'analyse de John. Wall Street est en hausse, le CAC aussi, il gagne notre CAC, 0,9%.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Alors même si on a un bémol aujourd'hui quand même à l'échelle mondiale, c'est la Chine. C'est Anthony Morlet de la Vidali qui va nous alerter là-dessus. La Chine où la demande est très mauvaise. Elle recule la demande, figurez-vous. Les consommateurs n'ont pas l'air en pleine forme. Bonjour Anthony, on est ravis de vous retrouver. Vous êtes économiste au sein de BSI Economics et c'est vrai que vous, votre focus là, ce qui attire votre attention particulière au-delà de la grande géopolitique, c'est le consommateur chinois. On a le chiffre des ventes au détail du mois de mai. Eh bien, c'est un chiffre des ventes au détail en baisse. Première fois que le chiffre des ventes au détail baisse depuis 2022, Anthony.
Oui, complètement. Bonjour Guillaume. Alors effectivement, on voit bien qu'il y a un gros sujet en Chine qui est la demande intérieure. Donc c'est à la fois la consommation des ménages, mais également l'investissement. Et les deux composantes sont en recul assez significatif. Et donc là, on ne voit pas bien comment la Chine en réalité pourrait croître de 5% l'an comme elle a l'habitude de l'afficher et comme la cible est toujours fixée pour cette année. Alors certes, les exports contribuent toujours absolument massivement à sa croissance, dans des proportions d'ailleurs inquiétantes. Ça alimente les déséquilibres mondiaux. C'est d'ailleurs une des thématiques du G7 qui est traité actuellement. Mais on a quand même un vrai sujet, c'est la dynamique intérieure du deuxième plus grand marché mondial. Et là, ça peut impacter un grand nombre d'acteurs, dont certains acteurs européens, qui sont très présents en Asie. Donc je crois que là, il va falloir être vigilant, surtout que le gouvernement n'a pas l'air de véritablement prendre des mesures pour soutenir cette demande intérieure. Il y a beaucoup de déclarations, mais assez peu d'actes, au fond, pour soutenir concrètement la demande.
Le signal chinois, donc, à ne pas perdre de vue. Et pendant ce temps, on attend toujours la signature de cet accord de paix entre Américains et Iraniens. Ce sera vendredi, près de Lucerne, en Suisse. C'est ce que fait savoir le gouvernement suisse cet après-midi. Donc, ce ne sera pas à Genève, mais près de Lucerne. Tout cela fait baisser les cours du pétrole, c'est vrai. On est passé sous les 80 dollars tout à l'heure pour le baril de Brent. Est-ce que vous imaginez, si le détroit d'Hormuz roule vraiment et de façon pérenne, un pétrole beaucoup plus bas que les 80 dollars actuels?
Alors, en toute sincérité, c'est très difficile de faire une prévision. La plupart des prévisionnistes, faut être honnête, ne pensaient pas que le Brent pourrait redescendre aussi rapidement, ne serait-ce que pour reconstituer les stocks qui ont été consommés pendant la période où le détroit était fermé. Donc, on se disait que la baisse serait progressive. Finalement, le marché a vraiment réagi très, très précocement, puisqu'on vous l'avait dit, l'accord n'est même pas encore signé. Donc, c'est très difficile. On se dit probablement qu'il y a un plancher où c'est difficile d'aller sous les 75, sous les 70. Mais on pourrait être surpris. Ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours quand même un déséquilibre entre l'offre et la demande à l'heure où on se parle, et qu'à la fin, il va bien falloir quand même qu'un certain nombre de pays réimportent davantage de barils. Et ça devrait quand même soutenir les cours, sans forcément qu'ils remontent massivement, mais en tout cas, les empêcher de descendre à un niveau trop bas.
Anthony, au milieu de tout ça, de toute cette actualité macro quand même très urgente, il y a la Fed aussi. La réunion du comité de politique monétaire vient de commencer. Elle s'achèvera demain soir par le rendu de décision de politique monétaire. L'échiquier est un petit peu encombré de pions, là, si on peut dire.
Oui, complètement. Alors, la partie est très difficile pour la Fed, surtout qu'il y a une spécificité américaine que les autres grands pays de l'OCDE ne connaissent pas pour l'instant. C'est une inflation par l'IA, et notamment via les importations. Et on voit bien que les prix montent énormément sur les semi-conducteurs, les puces, mais pas que. Et la Fed doit gérer ça en plus. C'est-à-dire, au fond, il y a de l'activité aux États-Unis qui est tirée par ces gains de productivité liés à l'intelligence artificielle, mais ça génère des tensions qui sont probablement provisoires, qui sont non pérennes, mais sur les prix. Et s'ajoute à cela, évidemment, le choc dont on vient de parler, qui ont été les tensions géopolitiques. Donc il est vrai que si la Fed est capable de voir à travers, en quelque sorte, cette vague, elle n'a pas de forte velléité d'augmenter les taux, et en même temps, on est quand même à des niveaux d'inflation où ne pas bouger poserait probablement un problème dans la durée. Donc ça va vraiment être une ligne de crête pour la Fed, probablement un statu quo à court terme, mais si véritablement l'inflation ne baisse pas rapidement, il faudra quand même montrer au marché que la Fed n'y est pas insensible.
Anthony Morlet, la Vidali, et le comité de politique monétaire de la Fed commencent à se réunir donc aujourd'hui autour de Kevin Warsh en tant que président de la Fed désormais. Merci beaucoup Anthony de nous avoir accompagnés pour BSI Economics. Wall Street à peu près stable, le S&P hop, passe dans le rouge légèrement, rien de méchant, -0,1. Le Dow Jones lui soit un nouveau record historique à +0,7%, profitant de la baisse des cours du pétrole.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Alors pour l'instant, la France avance. SoftBank a annoncé il y a quelques jours des dizaines de milliards d'investissements en France dans les data centers. On voit que nos infrastructures électriques peuvent finir par être perçues comme un avantage compétitif. Léa Dunant-Châtelet pour DNCA est avec nous. Bonjour Léa.
Bonjour.
Depuis fin 2014, l'indice S&P Global Clean Energy a doublé. Il a doublé quand les autres grands indices larges ont progressé de 30 à 50%. Comment vous expliquez ce regain sur performance. Est-ce que c'est un nouveau cycle ou un rattrapage éphémère?
Alors, très clairement, c'est un nouveau cycle porté essentiellement par deux aspects. Un assainissement du marché, globalement. On a eu un éclatement de la bulle verte autour tout mi-2021 avec beaucoup d'entreprises non rentables, de la green tech, des introductions en bourse à des valorisations totalement démentes. Mmh. Et aujourd'hui, le deuxième aspect, c'est qu'on est face à un choc énergétique encore, toujours ce conflit. Et donc, finalement, une indépendance énergétique, une souveraineté énergétique qui devient cruciale, en plus du phénomène de l'IA, très consommateur d'énergie, bien sûr.
En plus, on voit qu'il y a énormément, on a vu Choose France, mais il y a énormément d'entreprises qui viennent s'installer chez nous, profiter de cette expertise quand même.
Absolument, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux aspects qui sont intéressants. La France est très attractive, la péninsule ibérique également. La raison, elle est simple, l'énergie est beaucoup moins chère qu'ailleurs, d'une part, et elle est surtout extrêmement fiable. Et donc, quelles que soient les industries, et effectivement, les data centers sont en train d'accourir, notamment dans la péninsule ibérique, mais également en France avec SoftBank, pour ces raisons-là. Et donc, il faut avoir en tête des chiffres de prospectives sur les besoins d'électricité qui sont assez colossaux. À horizon 2035, la croissance d'électricité dans le monde, c'est 15%. C'est 30% aux États-Unis.
Par an, on précise.
Au total.
Ah non, au total.
Au total.
Ah, c'est pas énorme.
Mais il faut avoir le chiffre complet. 30% aux États-Unis, fois 21% en Europe.
Ah, d'accord.
Et là, en fait, on comprend que tout le sujet de l'énergie, parce qu'elle est fiable, justement, cette énergie, la demande va être extrêmement importante en Europe, parce que les industries vont s'y installer, pour ces raisons-là. Et donc, il y a effectivement un mouvement qui est enclenché depuis à peu près 18 mois sur l'électrification, sur la rénovation des réseaux, sur les énergies renouvelables, bien sûr, mais pas seulement, qui a fait exploser cet indice.
C'est fou. Vous pouvez redonner les chiffres là que vous venez de donner, la demande en électricité en Europe attendue d'ici 2035, donc à peine
10 ans, on va dire ça, okay. 10 ans, eh bien, c'est une croissance de 15% à l'échelle mondiale, une croissance de 30% aux États-Unis et une croissance de x21, donc pour l'Europe.
x21.
Oui. Bon. En fait, on a pris beaucoup de retard sur l'électrification, paradoxalement. Donc les véhicules électriques, notamment, les pompes à chaleur, on va avoir évidemment tous les sujets de data center. L'électrification, c'est tout. L'électrification de l'économie, c'est le passage à une nouvelle source d'énergie qui la rend moins volatile en termes de prix, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, plus fiable, évidemment, et plus verte.
Oui, en fait, enfin, ça peut nous paraître étrange parce que l'électricité est là depuis des dizaines et des dizaines d'années, donc on se disait qu'on était déjà dans tout électrique, pas du tout.
Pas du tout, on en est même très loin.
Ouais,
et c'est ce qui fait les beaux jours d'acteurs comme Schneider Electric, par exemple, qui est un des leaders.
Et du coup, est-ce que tout ça va modifier le statut boursier même des grands énergéticiens européens, leur profil boursier, on pense à Engie, E.ON, Iberdrola, etc.
Oui, alors complètement, le statut est passé d'un statut de valeur plutôt dite « value », de rendement, elle versait des dividendes assez intéressants, à des valeurs de croissance. Iberdrola, qui est le leader européen incontesté, qui a pris un tournant stratégique majeur il y a déjà une vingtaine d'années, est aujourd'hui celui qui se positionne comme le grand gagnant justement de ce mouvement général, avec à la fois des réseaux très puissants dans lesquels il y a des investissements importants, des déploiements de capacités. Iberdrola, aujourd'hui, c'est une performance qui est bien meilleure sur les 10 dernières années que les indices européens moyens, et que l'ensemble des énergéticiens. Et c'est une société qui est en train de passer à un profil de croissance. On n'avait jamais vu ça pour les producteurs. C'est des valeurs de bon père de famille, un peu comme les télécoms. On les met dans un coin du portefeuille. Ça va pas faire une performance extraordinaire. On aura un dividende et ça s'arrête là.
Ça ronfle au fond de la pièce.
Voilà. Et voilà, oui. Là, c'est complètement différent. Vous êtes sur des profils d'ultra-croissance.
Mais ce que vous nous dites, est-ce que c'est ce qui attend l'Europe, là? On est sur un profil d'ultra-croissance, des groupes qui redeviennent hyper compétitifs, attractifs aussi. Est-ce que vous vous dites qu'avec les enjeux autour de l'électricité, le besoin d'électrification en Europe et donc cette manne qui attend nos grands énergéticiens, l'Europe va redevenir d'un coup une forme de marché attractif, voire de leader, perçu comme un leader à l'échelle mondiale? Aujourd'hui, tout le monde nous parle de nous et on est les premiers à parler de nous-mêmes de façon très négative. Est-ce que vous sentez qu'on est une de ces enjeux? Si on arrive à les adresser d'ici une dizaine d'années, vous nous avez fixé le calendrier, l'Europe sera perçue comme un leader?
Définitivement, en tout cas, peut-être pas un leader. Il y a bien des batailles qu'on a perdues. La technologie est aux États-Unis, le véhicule électrique et les énergies renouvelables sont en Chine. Ce qui nous reste, c'est ça. C'est l'attractivité du territoire sur la base d'infrastructures. Et c'était déjà le cas par le passé, les routes, etc. En tout cas, là, l'infrastructure énergétique, étant donné les besoins qu'il va y avoir dans différentes industries, sera un atout pour la compétitivité de l'Europe.
Et c'est majeur ce que vous dites, parce que les infrastructures et la production de pétrole, on voit ce que ça a permis aux pays du Golfe et les Émirats de créer un miracle dans le désert, quand même. même en termes économiques. Là, ce que vous dites, c'est que si d'un coup l'intérêt, l'attrait, les besoins vont vers l'électricité et que bah, la valeur ajoutée est en Europe, ça vous offre un potentiel de développement hyper intéressant.
C'est potentiellement un boulevard. Et quand on voit effectivement les cartes des data centers qui fleurissent dans le monde, ils sont totalement collés au prix de l'électricité.
Ouais, ça fera de l'argent aussi, de la rentabilité, on l'espère. Et en tout cas, des occasions, des idées d'investissement. Vous avez
Absolument.
Cité Iberdrola, une vie, c'est les valeurs dans lesquelles il faut...
Oui, Prysmian qui fait les câbles, justement, pour oui. qu'on voit là derrière pour transmettre de l'électricité. Vous avez NKT également dans ce domaine-là. Vous avez Siemens Energy qui fait les turbines à gaz, parce que quand on parle d'électricité, bah, il faut des énergies intermittentes couplées à des énergies stables. 4-5 ans de carnet de commandes maintenant pour Siemens Energy. Il y a énormément de valeurs intéressantes.
Et vous parliez des besoins en câble. Un intervenant de BFM Bourse nous disait il y a quelques jours, pour 10 km reliés, par exemple un data center, situer ce data center à 10 km du réseau d'électricité, donc pour 10 km de câble, il faut 2000 tonnes de cuivre, etc.
Oui.
etc.
C'est le, 10 km, quoi. Tout au bout de la chaîne, il y a effectivement les métaux sur lesquels la tension va rester encore très importante.
Léa Dunant-Châtelet, DNCA, merci beaucoup Léa de nous avoir alerté sur tous ces enjeux. Dans un instant, c'est la famille BFM Bourse avec Sabrina Salgui. Elle va nous rejoindre. L'info du jour, c'est SpaceX. Un SpaceX qui est passé devant Amazon en capitalisation et devant Microsoft aussi en valeur boursière, figurez-vous, en market value. Oui,
incroyable.
Ça va très très vite. Oui, vous portez un regard là-dessus, SpaceX?
Ah oui, c'est...
Plus 10 encore aujourd'hui.
Avec, il faut le rappeler quand même, un flottant très 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 petit. Hein, c'est-à-dire que les actions en circulation sont toutes très peu de choses en fait par rapport à la capitalisation, une valorisation assez compliquée à justifier. Donc oui, j'ai un regard, ces fameuses valeurs où il est difficile de pas y être. On a bien vu le parcours qu'elle vient de faire en quelques jours. Et en même temps, il y a beaucoup de signaux compliqués. La gouvernance, l'indépendance, oui. vous donner les pleins pouvoirs à quelqu'un...
Difficile de pas y aller, mais en se bouchant le nez, quoi. C'est un peu
ça. C'est sûr.
C'est un enjeu hein, pour beaucoup de gestion active aussi. Justifié de pas en avoir, mais justifié d'en avoir aussi pour les raisons ESG que vous venez de citer. Léa Dunant-Châtelet, merci beaucoup Léa.
Plaisir.
Le CAC gagne 0,9%. On se retrouve avec Sabrina et l'ensemble de la famille BFM Bourse. Antoine, bien sûr, dans une poignée de secondes. À tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
La famille BFM Bourse, le seul endroit au monde où vous choisissez votre famille. Sabrina Salgui nous rejoint, bfmbourse.com. Bonjour Julien,
Sabrina. Oui, Sabrina.
Kim, bonjour. Oui. Voilà, c'est pareil.
Voilà, donc sinon bonjour Guillaume et bonjour Antoine.
Oui. Bravo.
Voilà.
Bonjour. Le CAC gagne 0,9%. On est bien. Alors, l'info du jour, quand même, parce qu'on vous le répète depuis maintenant une grosse demi-heure, c'est que SpaceX continue de cartonner au point que SpaceX, au rythme où ça va, deviendrait dans une semaine la première capi mondiale. Il suffit que ça continue à ce même rythme et SpaceX passera devant Nvidia d'ici une semaine. On n'en est pas encore là, mais SpaceX, d'ores et déjà, passe en capitalisation devant Amazon, c'est fait, et devant Microsoft, ça a été fait. Oui. Et pendant quelques instants, là, ça a duré quelques secondes, SpaceX est devenue, tout à l'heure, devant Microsoft, la quatrième plus grosse capitalisation mondiale, mesdames, messieurs. Ça, c'est le fait du jour. Au-delà de SpaceX, on a des marchés qui sont toujours aussi solides, Sabrina. Notre CAC a franchi les... Non, on passe de franchir les 8500 points, il gagne 0,9%.
Oui, on passe, on est à 8480 points, on est aux portes des 8500 points, toujours porté, en parlant de porte, de par l'accord iranien, oui. C'est le début de semaine, hein, voilà. Il faut que je me remette à fond dans les ballons, mais en tout cas, voilà, le marché est ultra positif. Alors sur les valeurs, hein, en parlant de CAC 40, on a JCDecaux qui est à l'affiche aujourd'hui, porté par une note de Bank of America qui est passée à l'achat.
Ah, faut pas oublier les changements d'opinion et de recommandation qui font aussi parfois la pluie et le beau temps. Donc JCDecaux, vous l'intérêt en hausse. Hey, Antoine, comment vous la regardez cette séance? Comment vous la vivez de l'intérieur?
Ben, on est au plus haut de la séance. Je remarque tranquillement, bon, pendant qu'on parle de SpaceX, pendant qu'on parle de tout. Bah, on rejoint nos niveaux de mars. Mars dernier, on avait battu un record absolu sur le CAC 40. On n'est plus qu'à 150-200 points du but.
Oui, c'est vrai.
Donc, on est quand même bien orienté. Et ce qui a fait notre force, bah, refait notre force, à savoir le secteur du luxe.
Du luxe.
Qui cartonne à bas bruit parce que devant, on a Schneider Electric, plus de 6, on a Safran, plus de 2,5. Mais voilà, ça fait plusieurs séances de suite que la tendance retourne sur le luxe. Là, ça fait quand même pas mal d'intervenants qui passent... autour de cette table, aussi bien dans TPI que dans BFM Bourse, pour nous dire attention, c'est peut-être le mouvement value à faire. Et comme c'est la force du CAC 40 par rapport aux autres indices européens, bah, non seulement on surperforme très largement aujourd'hui, hein, l'Eurostock 50 gagne 0,56%, mais ça pourrait être le pari du moment pour un petit peu regarnir les portefeuilles.
L'autre info du jour, c'est que la DGSI rompt son contrat avec Palantir, figurez-vous. Les renseignements intérieurs choisissent de moins dépendre des seuls États-Unis en matière technologique. Palantir à Wall Street perd 3%. Et la DGSI choisit de remplacer son contrat avec Palantir par un groupe européen, ChapVision, voilà, qui détient ChapVision, une valeur française, une valeur cotée à la Bourse de Paris. Il en détient 70%, c'est le titre Coeris. Ah. Ce titre Coeris, Sabrina, gagne 16% du coup aujourd'hui, puisque ChapVision est donc choisi par la DGSI. C'est important hein, quand même, ChapVision qui remplace Palantir. Et on voit là les enjeux de souveraineté très très clairement. L'Europe, en tout cas la France, veulent moins dépendre des seuls acteurs technologiques américains. On rompt le contrat avec Palantir. Là.
C'est ça.
Et on voit un certain nombre de groupes annoncer d'ailleurs que l'État français, fait le choix d'acteurs souverains, d'acteurs européens et français pour leur sécurité.
Et c'est le cas, par exemple, de Lighton, hein, qui gagne maintenant 38%. Alors, bon, une hausse aussi à relativiser parce que Lighton, bah, là, on est à 5 euros, hein, aux environs des 5 euros. C'était entré en bourse hein, à l'automne 2024 à 10,35 euros parce qu'ils avaient annoncé quand même, il y a eu plusieurs avertissements sur résultats parce que ils n'avaient pas réussi à honorer plusieurs contrats. Et donc, c'est pour ça que, certes, ça prend 38% aujourd'hui, mais quand même, ils ont accusé quand même un retard assez notable par rapport à leur cours d'introduction. Mais là, pour ceux qui ne connaissent pas Lighton, en fait, c'est une société qui développe des chatbots hein, comme ChatGPT et des moteurs de recherche appliqués aux bases de données pour les entreprises. Et là, le secteur public, plusieurs administrations, des ministères, etc., ont adopté les solutions de Lighton.
Voilà, Lighton gagne 36% en revenant de très loin et groupe titre hyper spéculatif. Toujours dans les enjeux de souveraineté, les valeurs souveraineté européennes et françaises, il y a OVH qui marche bien. Hier déjà, le titre avait bien progressé. Il gagne encore en ce moment 1,9% parce qu'on est en train de prendre conscience en Europe qu'on est très dépendant d'acteurs technologiques américains et que ceux-ci ne nous voudront pas forcément que du bien. Washington, hein, on vous le rappelle, a demandé à Anthropic de ne plus laisser l'accès libre aux non-américains à ses meilleurs IA. Donc voilà, il faut moins dépendre de ces acteurs américains. Dorian Abadi est avec nous, responsable bourse de Meilleur Taux Placement. Bonjour Dorian.
Bonjour Guillaume.
On est ravis de vous retrouver. Dorian, comment vous les sentez les forces en présence dans les marchés, dans les grands indices aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui comme hier, finalement, on profite d'un regain d'appétit pour le risque. Hein. Sabrina l'évoquait, c'est bien sûr lié à cet accord préliminaire entre les États-Unis et l'Iran avec l'espoir d'une réouverture du détroit d'Hormuz. Donc on a un baril d'or noir qui perd 7% depuis hier matin. Et mécaniquement, donc on a une hausse des principaux indices. On a eu 1,65% hier sur le S&P. Pour le moment, depuis hier matin, le CAC progresse d'1,3%. Et alors, il se passe plusieurs choses intéressantes. Hein. C'est-à-dire que je crois que c'est un point qu'il évoquait, effectivement. La première, c'est que nous avons presque effacé la totalité des pertes liées à la guerre en Iran. C'est un élément assez central parce que le CAC, comme les indices européens, ont longtemps été en retard par rapport à ce puissant rebond qui a eu lieu en Asie et aux États-Unis. On est sur des plus hauts historiques hein, sur ces grands indices internationaux. Donc l'analyse technique va être assez limitée hein, en termes d'intérêt sur le CAC en ce moment pour les acheteurs parce que deux jours avant le déclenchement de la guerre en Iran, nous avions ce nouveau record historique sur les 8642 points. Donc on est obligé de s'en remettre sur des niveaux un petit peu psychologiques, un petit peu ronds comme les 8500, un petit peu plus technique au-dessus, 8550 et enfin, pourquoi pas dans les prochaines séances, il y a 8640 avec un nouveau franchissement du record historique. Mais là, clairement, ça va dépendre du luxe, qui a été évoqué sur votre antenne, de l'IA et puis de ses espoirs de négociation hein, parce que la séquence géopolitique n'est clairement pas terminée.
Dorian, il y a un titre pour lequel tout va bien aussi, c'est Airbus, hein, tranquillement plus 5% en une semaine et 8% en un mois, si je compte bien. Est-ce qu'il y a quelque chose de graphiquement intéressant à jouer ?
Oui, alors bah, c'est vrai que Airbus est une magnifique action hein, que l'on a recommandée ces dernières années à l'achat. À court terme, je vais distinguer vraiment le coût et le long terme, mais à court terme, on a atteint deux de nos trois objectifs avec nos clients, donc préconisé de prendre quelques bénéfices sur les 175, 184 et on l'espère bientôt les 190 euros. Mais au-delà de ça, ces dernières semaines, sur le long terme, nous avons rehaussé notre objectif à 255 euros au lieu des 220 euros, ce qui constituerait véritablement un nouveau record historique pour Airbus. Le premier trimestre a été un petit peu mitigé, en particulier sur les livraisons d'avions. On pense que c'était un problème ponctuel, temporaire, et que la cadence de livraison va augmenter dans les prochains mois. Alors, bien sûr, cet objectif, hein, que ce soit 220 ou 255, ne sera pas atteint dans les prochains jours ou prochaines semaines. Hein. C'est vraiment du long terme. Mais on a une vision à nouveau très optimiste sur cette action qui, malgré sa hausse des 4 à 5 dernières semaines, cède toujours du terrain depuis le début de l'année à la Bourse de Paris.
Merci beaucoup, Dorian Abadi, meilleur taux de placement. Bon après-midi, Dorian. Vous faites tous partie de cette famille. Ce soir, vous faites quoi ce soir, tiens, l'un et l'autre, Sabrina, Antoine? Quel est votre menu ce soir, votre programme?
Alors, le menu, ce sera comme quelques millions peut-être de téléspectateurs. Je regarderai le match France-Sénégal.
Ah oui, tiens, Antoine?
Oui, oui aussi.
Ah oui, eh ben moi aussi.
Et ben
juste
voilà.
Un œil à tout ça.
Oh.
Ah bon? Oui, et quel intérêt? Mais c'est la question du jour, bien sûr. Vous faites tous partie de cette famille. Et vous, que ferez-vous ce soir? Non, c'est pas la question du jour. Mais les Bleus jouent ce soir. Et vous, dans quel domaine pensez-vous que la France est championne du monde, déjà championne du monde en bourse? Ah, est-ce que la France est déjà championne du monde dans le luxe, dans la défense, dans l'énergie, ou déjà championne du monde des taux élevés? On a même imaginé championne du monde des impôts, mais on s'est dit que tout le monde allait voter pour ça. Non. Donc on
s'est. Il y a l'énergie aussi, t'as oublié l'énergie.
Et je l'ai donné avant, j'ai inversé.
Ah oui, l'énergie.
Ah, pardon, excuse-moi.
Alors, Sabrina, de quoi est-ce qu'on est déjà champion du monde sans attendre le match des Bleus?
Alors, sans attendre le match, et Antoine l'a très bien développé en début de cette famille, c'est le luxe. Hein, le luxe, la France, pour moi, c'est incontestablement les valeurs du luxe, et notamment le CAC 40. Hein, c'est vraiment le secteur qui porte notre marché parisien quand ça va bien.
Qui a porté, oui.
Voilà. Non, mais si, ça va. Ça, voilà, le luxe, c'est vrai qu'il a souffert du conflit au Moyen-Orient. Quand même, il y a plusieurs groupes qui sont exposés, bien sûr, à cette région. Avec la baisse du trafic aérien, les ventes se sont un peu affaissées. Donc, mais il y a quand même des poches de résistance. Par exemple, aux États-Unis, les ventes se portent plutôt bien pour ce secteur-là. Et puis, on a observé, par exemple, avec LVMH, qui avait un petit démarrage compliqué l'année dernière, et puis a opéré une remontada assez dingue sur la deuxième partie de 2025. Donc le luxe, c'est rebondir, quand il était vraiment en souffrance en première partie d'année. Eh bien, le luxe, on l'a vu en 2025, a réussi à se remobiliser.
Donc pour vous, pas besoin du football pour savoir où on est champion du monde, on l'est déjà dans le luxe en bourse pour vous. Oh, ok, moi je dirais qu'on est un peu des anciens. Non, on est toujours les champions, mais ça rapporte moins, quoi. Mais on espère que le luxe va revenir en forme. Antoine, pour vous, de quoi la France est-elle déjà championne du monde en bourse? Avec le micro, Antoine.
Ah zut, par élimination, je dirais... Alors, l'énergie, oui, pourquoi pas, parce qu'on est les champions du monde du nucléaire, hein, par tête de pipe en France.
Ouais. On a Total aussi.
On a également Total. Monde, mais voilà. Oui, on a les énergies renouvelables. Hein. On en a parlé il n'y a pas si longtemps. Malgré tout, je ne pense pas que ce soit véritablement ça qui fasse la différence. Les taux élevés, oui, on a des politiques.
Les champions du monde des taux élevés.
Bah oui, mais pourquoi? Mais parce qu'on a des hommes politiques qui sont champions du monde du je touche pas au budget, je laisse filer, on restructure pas les finances. Bon, ok. Donc résultat, on a des taux élevés. Ça, je suis d'accord. Maintenant, c'est peut-être appelé à changer. Disons-le. Du côté de la défense, on est excellent. Simplement, on est dépendant de la coordination européenne et on le voit ces derniers temps. On ne fait que tomber de haut sur nos différents programmes, avec le SCAF, avec le char franco-allemand qui serait sur la sellette, etc. Enfin, on est incapable de coopérer en bonne entente. Reste le luxe. Et moi, je suis persuadé que ça reste notre force, que ça restera notre force. On est bien content qu'il soit là quand le marché redémarre, parce que ça nous permet de surperformer. Et puis, quand l'ensemble des incertitudes mondiales auront fini de se décongestionner, on va se féliciter de l'avoir, parce qu'il provoquera une surperformance du CAC 40 par rapport au reste.
Peut-être nous aider à atteindre les 150 points qui nous manquent
pour un
nouveau record absolu.
Et pour sortir la casquette.
On va regarder vos réponses à vous tous, tiens. Pour vous, dans quel domaine la France en bourse est-elle déjà championne du monde?
Voilà.
Le luxe à 74. Devant la défense, hein, seulement 9% de la défense.
Ouais.
Les taux élevés à 8%. Voilà. Il y a des arguments, des commentaires intéressants sur lesquels on rebondira encore dans la suite de BFM Bourse. On n'est pas les champions de l'espace. On l'a été avec Ariane. On est toujours parmi les pays, les continents suivis en matière spatiale. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est vraiment aux États-Unis que ça se passe. SpaceX en bourse. Oui, on revient à SpaceX, gagne à nouveau cet après-midi. 7% SpaceX tout à l'heure est passé en capitalisation devant Amazon et devant Microsoft, juste pour sa troisième séance de cotation, Sabrina.
Oui, juste. Alors, Amazon, c'est bon, c'est fait, hein, c'est verrouillé, on est dans les top 5, mais pour Microsoft, c'était bref, hein, c'est vraiment brièvement, et puis maintenant, on est toujours au top 5. Alors, pour la petite, le petit truc, c'est que pour atteindre les 3000 milliards, le seuil des 3000 milliards, qui est quand même pas mal, hein, c'est un beau seuil, eh bien, il faut que SpaceX gagne 20% sur la séance pour atteindre ce seuil-là. Mais pour l'instant, quand même, hein, pour une entreprise qui n'a que 3 jours de bourse, hein, 3 jours d'existence en bourse, eh bien, a réussi cette prouesse assez historique. Alors, par rapport à son prix d'introduction en bourse, SpaceX affiche une hausse de 50% et dès le premier jour de cotation, hein, SpaceX est entré directement dans le sein des saints, le top 10 des plus grosses capitalisations au monde. Alors, les conditions, elles ont été réunies, hein, pour que le groupe ne trébuche pas pour ses premiers jours en bourse. Hein, de nombreuses banques ont acquis des titres. Plusieurs fonds indiciels se sont aussi, ils ont été contraints aussi d'acheter l'action en prévision de son inclusion de SpaceX dans plusieurs indices phares, dont le Nasdaq 100. Et puis les investisseurs aussi, littéralement, ils se sont rués sur le titre.
Effectivement, c'est une introduction en bourse jusqu'ici réussie. Ça n'empêchera pas le titre à un moment ou à un autre de repartir à la baisse, voire de décrocher. On verra. Ce qu'il faut quand même noter et que vous soulignez aussi dans cet article sur bfmbourse.com, c'est qu'un certain nombre, d'actions SpaceX mis en circulation est quand même très restreint, donc un flottant tout petit pour cette introduction en bourse.
Oui, c'est vrai que c'est la plus grosse levée de fonds de l'histoire, mais le flottant est tout petit, hein, c'est moins de 5% hein, ouais. Du flottant, c'est-à-dire les actions qui circulent librement en bourse. Hein. Et ce chiffre, il pourrait un peu gonfler hein, dans les prochains mois, parce que il y a eu des modalités d'introduction en bourse. En fait, il prévoit une 17 clauses de lock-up. En fait, c'est l'engagement de conservation de titres. Hein. Pendant un certain moment, les banques, etc., ne peuvent pas lâcher les titres comme ça. Le but, c'est d'éviter justement un afflux de titres lors des premières séances qui pèseraient lourdement sur la performance du titre. Alors, exactement. La première, elle échoit le deuxième jour suivant la publication des résultats financiers. Ce sera cet été, hein, ce sera en juillet, en août prochain, on ne le sait pas forcément. Et puis, au total, ce sera des centaines, voire des milliards d'actions existantes qui pourraient être mises sur le marché d'ici juin 2027.
Et ça, c'est à avoir en tête quand on est investisseur dans SpaceX. Et décidément, Elon Musk ne fait rien comme les autres, même sur les modalités de la future publication. Vous parliez de la publication trimestrielle à venir en juillet ou août. Même là-dessus, la façon de communiquer les résultats sera pas la même que pour les autres groupes.
Non, parce que SpaceX a décidé de les publier sur son site internet et sur X, mais va se passer des diffuseurs classiques, hein, des communiqués de presse qu'on connaît aussi en France. Hein. Et là, Elon Musk a dit, SpaceX a dit non, je vais faire à ma façon, à ma manière. Donc en fait, SpaceX, avant son entrée en bourse, c'était des modalités complètement singulières. Et même en bourse, eh ben SpaceX ne veut pas faire comme tout le monde.
Exactement. Donc, pour accéder à l'information financière, aux publications trimestrielles, par exemple, de SpaceX, il faudra aller sur le site de SpaceX ou sur le X
de
SpaceX. Exactement. Façon de dire à tout le monde, les investisseurs, les banquiers, tout le monde, venez chez nous. C'est chez nous que ça se passe et que vous aurez l'information. Oui. C'est une façon de verrouiller l'information aussi.
C'est ça.
Hein.
C'est lui qui fait les règles du jeu.
Oui. Et c'est sa vision d'un écosystème indépendant. Mmh. SpaceX gagne 7% supplémentaire cet après-midi. Il est 16h48. Chaque jour, un expert de marché vient déconstruire les idées reçues. C'est Christian Bito aujourd'hui qui nous accompagne, Swiss Life Gestion Privée. Il est aussi professeur de finance à l'ESSEC. Christian, bienvenue.
Bonjour.
Christian. On est ravis de vous retrouver. Quand les taux des banques centrales montent, les prix et les actions en bourse baissent. Ce matin, la Banque du Japon a annoncé une hausse de ses taux de 25 points de base. Et c'est vrai que souvent, quand les taux montent, les actions et les prix baissent. C'est ce que beaucoup pensent, mais pas vous. Vous dites bullshit. Vous foudroyez, Christian, cette idée que les taux qui montent font toujours baisser les actions et les prix.
Oui, et même je passe beaucoup de temps à l'expliquer à mes étudiants à l'ESSEC. Quand les taux montent, les prix baissent. Simple à comprendre, si vous avez acheté une obligation qui vous rapporte du 3%, ben, si vous apprenez le lendemain que les taux passent à 5%, votre obligation est décotée puisqu'elle ne rapporte plus que du 3%. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça touche aussi les actions. On évalue souvent une action quand on achète une part de société pour les bénéfices qu'elle va vous produire. Si d'un seul coup, on apprend que les taux d'intérêt montent, la valeur présente, on dit la valeur actualisée, on fait beaucoup de calculs à l'ESSEC, il fait très chaud, la valeur actualisée va baisser. C'est un peu comme une obligation. Par exemple, en France, en 2022, rappelez-vous, les taux d'intérêt à long terme, les taux à 10 ans français étaient montés de 1%, 1% de plus. Les obligations avaient perdu 15%, les actions avaient perdu à peu près 17%.
Ah. Donc
normalement, quand les taux montent, les prix baissent.
Voilà, et vous venez de l'illustrer. Sauf que vous venez nous dire qu'en fait, ça ne marche pas toujours. Exemple au Japon, la Banque du Japon a relevé ses taux ce matin. Qu'est-ce qu'il y a de particulier au Japon?
C'est une exception, c'est absolument incroyable. Parce que si on regarde depuis le mois de novembre dernier, les taux d'intérêt à long terme, c'est ça qui compte pour valoriser des flux de bénéfices d'entreprise. Ce ne sont pas les taux au jour le jour, ce sont les taux sur les marchés obligataires. Ces taux d'intérêt sont passés de 1,65% pour les taux à 10 ans japonais, la référence, à 2,65%. Donc 1% de hausse de plus des taux longs, c'est un véritable krach obligataire comme on l'a subi en 2022 sur les autres marchés occidentaux. Et bien en parallèle, les actions japonaises ont monté de plus de 38%. Depuis le début de l'année, c'est déjà presque 35% de hausse, ça n'arrête pas. Et encore ce matin, malgré la hausse des taux, et bien le marché japonais était encore en hausse, a touché 70 000.
Pour la première
c'est absolument
fois.
Incroyable, c'est le monde à l'envers.
C'est dingue, hein, Christian, c'est vrai que vous expliquez ce paradoxe. Alors, comment vous expliquez cette exception japonaise ?
Alors, la plupart des spécialistes disent, écoutez, c'est normal, parce que le marché japonais n'avait rien fait depuis 15-20 ans, on peut dire. Quand on regarde un graphique du Nikkei 225, c'est le calme plat, c'est la période de la Grande Dépression, et on trouve aujourd'hui de bonnes affaires à faire pour des investisseurs value. C'est-à-dire des gens qui vont rechercher des valeurs pas chères, des valeurs d'actifs largement décotées, des valeurs cycliques aussi. Et ça, c'est un des premiers moteurs du marché japonais, quand on regarde le Nikkei qui a fait cette performance exceptionnelle, de grosses valeurs cycliques délaissées depuis longtemps comme Daikin, enfin je ne vous citerai pas différents noms de valeurs, mais on a des hausses impressionnantes de 200-300% en l'espace de 6 mois sur de grosses valeurs cycliques. Et puis il y a une deuxième partie du marché qui est là de l'actualité internationale. Les valeurs technologiques, vous en parliez à l'instant, où les gens se disent bah, ça a peut-être un peu trop monté les SpaceX et autres méga-caps américaines. Il faudrait, sans abandonner la thématique, diversifier ses investissements dans la technologie, aller rechercher en Corée du Sud. Puis on se rend compte au Japon que le marché est bourré de valeurs technologiques qui sont beaucoup moins valorisées que les valeurs américaines. Vous trouvez par exemple des leaders de la robotique et de la technologie pour les industries comme Cayence, leader mondial de l'automatisation dans l'industrie. Une boîte que personne n'a regardée depuis une dizaine d'années. Et ce sont de grosses boîtes avec de gros actifs, de gros marchés. Et ça, bien entendu, ça crée un intérêt et les investisseurs se reportent dessus. Et puis enfin, les financières. Parce qu'on apprend aussi à l'ESSEC que les valeurs financières bénéficient de la hausse des taux parce qu'ils peuvent améliorer leur marge de crédit. Voilà le système. Donc des Soch, bien entendu, la première capille japonaise, et puis des Mitsubishi Finance, donc tous ces gros conglomérats financiers bénéficient du mouvement mondial de hausse des taux qu'on connaît.
Et on voit la même chose un peu en Europe, parce que la BCE a annoncé une hausse de ses taux. Hier, AXA, BNP étaient sur des plus hauts historiques.
Voilà. Oui, c'est clair. Oui, parce qu'on fait plus de marge. Quand on fait du crédit, on gagne beaucoup plus d'argent pour une banque. Quand les taux sont à 5 et qu'on va se refinancer à 3, que quand les taux sont à 1 et qu'on va se refinancer à 0,80. La marge, l'écart augmente. Donc le bénéfice, le produit bancaire, on dit, augmente.
Oui, mais il y a un paramètre à rajouter dans l'équation, c'est que le yen perd de sa valeur.
Ah oui, c'est vrai que pour un investisseur international comme nous le sommes, aller chercher des actions japonaises depuis un an, ça coûtait tout de même une dépréciation sur le yen de l'ordre de 12-13%. Donc d'un côté, on gagnait beaucoup, mais on perdait sur la devise. Alors j'en émets une nouvelle hypothèse, tout à fait atypique, mais c'est le thème de cette chronique, qui serait de dire que les Japonais font une sorte de reverse flight to quality. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le flight to quality, normalement, c'est quand il y a un problème sur les actions, les investisseurs, les épargnants ressortent en vitesse et achètent des obligations pour se protéger. Aujourd'hui, ce qu'on sait sur le marché japonais, il y a beaucoup d'épargnants domestiques japonais, donc ça, ça concerne vraiment les Japonais, c'est que les taux d'intérêt vont monter. Monsieur Ueda, le patron de la Banque du Japon, l'a annoncé depuis un an. Il y a de l'inflation et l'année dernière est à 3,4%. Donc je vais remonter progressivement mes taux d'intérêt, vous pouvez en être certain. Il l'a encore fait ce matin, des gens hésitaient, mais non, il l'a bien dit, 0,75 à 1%. Donc à chaque fois, il remonte ses taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, surtout contre des salaires qui sont à 3,5% de progression au Japon. Donc on freine cette expansion inflationniste. Donc l'épargnant japonais sait qu'à tous les coups, il va perdre de l'argent sur ses obligations. Toujours le même principe, obligation à taux fixe, les taux montent, les prix baissent. Et donc, il pourrait y avoir un mouvement de report d'épargne contre-intuitif qu'on n'a jamais vu, de reverse flight to quality. Je sais que je perds avec les obligations, je vends mes obligations pour acheter des actions, parce que depuis l'arrivée du Premier ministre, du nouveau Premier ministre, Mme Takeishi, il y a une sorte de regain d'optimisme, de regain vers la croissance. Elle n'est pas encore exceptionnelle, mais un retour vers l'économie japonaise, des épargnants japonais, aussi des investisseurs internationaux, qui rachète une croissance qui revient. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle revient. Et sur des valeurs décotées, ça pourrait expliquer le début et la poursuite de ce mouvement, parce que le Japon relève ses taux.
Ça peut durer.
Ça peut durer parce que le Japon, Monsieur Ueda, il a dit, c'est pas fini, il va relever progressivement ses taux. On n'en est qu'à 1%. Les taux obligataires sont à 2,65%. Il y a encore de la marge. Et dans tout ce mouvement, et puis les actions japonaises sont, en termes de valorisation comparée, tout de même encore un marché, assez bon marché. 30 ans de retard.
Oui, oui. La Banque du Japon ce matin a relevé ses taux de 25 points de base, c'était pas vraiment une surprise. Ça n'a pas empêché la bourse de Tokyo de battre un nouveau record pour la première fois, le Nikkei au-delà des 70 000 points.
Le Japon exceptionnel, on parlait de sport, le Japon a réussi un match nul avec les Pays-Bas. Plus exceptionnel, Toyota a remporté les 24 heures du Mans. Vous voyez, il se passe plein de choses, c'est le monde à l'envers, le Japon, il faut s'y intéresser.
Et SoftBank investit en France dans les data centers japonais, SoftBank, excellent. Effectivement. Il nous reste 2-3 minutes à passer ensemble en famille. Vous restez avec nous, Christian ?
Avec plaisir.
Avec, tiens, vous tous aussi qui nous suivez, on vous suit, on traque vos posts sur les réseaux sociaux et on vous challenge chaque jour, c'est le Facteur X. Voilà le post que notre rédaction de BFM Bourse a choisi de récompenser aujourd'hui. Il s'appelle Thierry et il nous dit on va rester dans les politiques monétaires alors que Kevin Warsh tient sa première réunion de politique monétaire là depuis aujourd'hui. Demain, sa première décision, sa première conférence de presse en tant que président de la Fed. Eh bien, Thierry nous alerte sur le track record boursier des nouveaux présidents de la Fed. Généralement, quand il y a un nouveau président de la Fed, Sabrina, en bourse, pour le coup, ça se passe pas très bien.
Non, ça se passe pas super bien. Allez, on va parler de Powell après sa nomination. Une baisse de 7% en moyenne sur les 12 derniers présidents de la Fed. Bon, on est sur une moyenne de moins 12, hein, donc c'est pas fou.
Moins 12 sur les mois qui suivent.
Exactement. Par exemple, Greenspan, hein, Alan Greenspan, il a hérité quand même du crack de 87. Bon, deux mois plus tard, il y a eu le crack. Et Jane Meyer aussi, il était en plein cœur de la Grande Dépression. Donc, c'est pas forcément de bon augure d'être nommé président. Et après, il y a les marchés qui font aussi le sel, par exemple, pour la nomination de Janet Yellen ou Jerome Powell. C'était dans un contexte un peu compliqué, par exemple, pour les émergents. En tout cas, voilà, c'est rien n'est acquis. En tout cas, bonne chance à Kevin Warsh.
Corrélation ou causalité, là, c'est vrai que souvent, quand il y a un nouveau président de la Fed, en bourse, ça se passe pas très bien.
Je dirais peut-être neutralité, tout de même, parce que dans la tradition de la Fed, mais on a un nouveau président, la Banque centrale essaie de ne pas se mêler de politique, et l'actualité politique est forte. On a la crise au Moyen-Orient, on a la négociation de la paix, on a les 250 ans qui arrivent maintenant de l'indépendance américaine, donc il y a un tel agenda d'actualité qu'il n'y a peut-être pas d'urgence. Il est possible qu'il opte pour une pause pour sa première réunion. Grosse surprise à venir sous 48.
Même avant les mi-termes.
Oui, on en parle dans un instant. Vous disiez les 250 ans, effectivement, de l'indépendance américaine. C'est demain soir à Versailles aussi qui seront célébrés en présence de Donald Trump. Il y aura un grand feu d'artifice à Versailles parce que tout cela a été signé à Versailles, le traité de Versailles. Alors, il y a plein de débats. Ah, c'est pas normal, un grand dîner à Versailles pour Donald Trump. Mais c'est le président américain et c'est à Versailles. On refait pas l'histoire. Enfin, on va pas faire de la cancel culture sur l'histoire.
Ça s'est passé à Versailles, j'espère.
Mais on va pas avoir honte que ça soit passé à Versailles quand même.
C'est très bien.
Oh, dans un instant, c'est la suite de BFM Bourse. On va se reconnecter au marché. Je sais pas ce qui s'est passé là.
Non, je sais pas.
Le CAC 40 gagne 0,8 et on entre donc dans la dernière ligne droite de cette séance. Merci à Sabrina Salgui, BFMBourse.com.
Merci.
Plein d'articles disponibles. Bonne soirée foot, Sabrina.
Merci, Guillaume.
Et à demain pour de nouvelles aventures. Antoine est avec nous aussi. Christian aussi nous accompagne dans cette dernière demi-heure. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.